Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 2 de Mixture, une émission 100% culture. Au programme aujourd'hui, notre chroniqueur Thomas Amiot nous parlera des sorties cinéma de la semaine, de la comédie au film d'animation. Il nous donnera son avis sur les films marquants de cette semaine. Du côté de la musique, Thomas Bovino nous fera son tour d'horizon de toute l'actualité musicale. Chaque semaine, de nouveaux livres sortent. Pauline Le Gall s'est intéressée à trois d'entre eux. Elle nous dira tout dans la chronique littérature. Et pour finir, notre chroniqueur Antonin Patarin est resté à l'affût de tout ce qui s'est passé cette semaine sur Internet et nous livrera tout dans la chronique Le Monde d'Internet. Le phénomène Tuche est de retour après Monaco, les États-Unis et même l'Elysée. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Cette fois, ils traversent la Manche pour poser leurs valises en Angleterre. Thomas Amiot va nous dire ce que vaut ce cinquième opus, God Save the Tuche.
Et oui, Alexis, cette fois, direction l'Angleterre avec God Save the Tuche. Jeff et Cathy sont toujours à Bouzol. La famille vit tranquillement jusqu'à ce que Gigi, le petit-fils, soit sélectionné pour un stage de foot à Arsenal, une aubaine pour les Tuches qui sautent sur l'occasion pour découvrir Londres avec, évidemment, leur sens inégalable de la discrétion et du bon goût. Et parce qu'un Tuche ne fait jamais les choses à moitié, ils vont jusqu'à croiser la famille royale. Et c'est là que le film trouve tout son ressort comique principal, le grand écart entre l'univers des Tuches et le flegme britannique. L'humour repose une fois encore sur un contraste XXL entre la gouaille bien franchouillarde de Jeff et leur raffinement anglais, et ça fait des étincelles. C'est du Tuche pur jus, avec des quiproquos absurdes, des dialogues savamment décalés et des running gags toujours plus appuyés. Jean-Paul Rouve pousse le curseur du burlesque en jouant sur des incompréhensions linguistiques et des situations volontairement absurdes.
Et justement, est-ce que ça fonctionne encore après 5 films ?
Eh bien honnêtement, totalement. Personnellement, je trouve que comparé au film précédent, l'histoire n'est pas juste un prétexte, mais importe dans le déroulé du film, c'est efficace et on rit de bon cœur. On peut aussi saluer un humour toujours aussi potache, mais qui sait se renouveler notamment grâce à des caméos bien sentis, Alain Chabat, Dominique Farrugia. Bref, l'esprit, les nuls planent toujours sur la franchise et ça, ça fait plaisir. Mais bien sûr, il y a un autre aspect qui peut rentrer en compte, celui de la répétition et de l'idée selon laquelle la saga pourrait commencer à s'essouffler. Pour certains, la formule ne surprend plus et ce cinquième épisode tourne un peu en rond. On parle même du Tuche de trop, c'est un débat et il est légitime.
Et du coup, moi j'ai une question Thomas, c'est un film qui est plutôt à voir ou plutôt à éviter ?
Franchement, si vous avez aimé les précédents, foncez, c'est dans la même ligne directrice et ça fait le taf. God Save the Tuche ne révolutionne pas la comédie, mais il assume son délire et il sait où il va. Du divertissement à l'état pur, des situations absurdes et une famille toujours aussi déjantée. Bref, pour un bon moment de rire, sans prise de tête, c'est validé.
Ouais, je voulais te poser une question. Il y a Jean-Paul Rouve qui a déclaré que s'il y avait un Tuche 6, si le 5 marchait bien, il ferait peut-être un 6e et qu'il demanderait aux fans où est-ce qu'ils voudraient le voir. Toi, où est-ce que tu voudrais voir les Tuches ?
J'aurais dit aux États-Unis, histoire de vivre un peu le rêve américain. Et de faire une grande aventure, pourquoi pas, sur la route 66.
Merci beaucoup. On reste cette fois-ci de l'autre côté de la Manche. Il y a un autre personnage qui a conquis les spectateurs avec sa gentillesse et son amour pour la marmelade. Depuis son premier film en 2014, Paddington est devenu une véritable icône du cinéma familial. Après deux aventures à Londres, notre ourson préféré change d'air et part pour le Pérou, n'est-ce pas Thomas ?
Effectivement Alexis, cette fois Paddington quitte la capitale britannique pour retrouver sa tante Lucy, mystérieusement disparue en pleine forêt tropicale. Il embarque avec la famille Brown dans un périple qui les mène au cœur de la jungle péruvienne. Et franchement, ce changement de décor fait un bien fou. On passe des rues londoniennes aux paysages luxuriants d'Amérique du Sud et l'ambiance du film en ressort totalement renouvelée. Il y a un vrai souffle d'aventure avec des moments de tension, d'émotion et bien sûr d'humour.
Et du côté casting, on savait qu'il était déjà assez beau ce casting sur les deux premiers films. Est-ce que là, cette fois-ci, il y a des nouveautés ?
Oui, et pas des moindres, Emily Mortimer reprend le rôle de tante Lucy, ce qui lui donne une présence plus marquée et encore plus touchante. Olivia Colman apporte une touche d'humour avec son personnage d'exploratrice décalée et Antonio Banderas campe un guide mystérieux qui ajoute du piquant à l'intrigue. Ce trio apporte une vraie fraîcheur au film et dynamise les interactions.
Mais alors, qu'est-ce qu'on ressent en regardant ce Paddington 3 ?
Pour ma part, c'est une vraie réussite. On retrouve tout ce qui fait le charme de la saga, une bienveillance qui fait chaud au cœur, un humour fin qui touche petits et grands et surtout une émotion sincère. Il y a des moments où j'ai senti un vrai frisson d'aventure, surtout avec les décors magnifiques et cette immersion totale au Pérou. On sent le soin apporté aux détails et à l'atmosphère du film. Et puis, évidemment, il y a ces instants plus tendres qui fonctionnent à merveille. Paddington, avec sa naïveté et sa gentillesse, continue d'être un personnage profondément attachant. Et certaines scènes m'ont même laissé avec une petite boule dans la gorge. Alors oui, certains pourront dire que le scénario est assez prévisible. Mais franchement, est-ce qu'on vient de voir un Paddington pour être surpris à chaque instant ? Pas forcément. Ce qu'on attend, c'est de la douceur, du rire et cette petite touche d'émotion qui fait toute la différence. Et là-dessus, Paddington au Pérou coche toutes les cases. Pour moi, c'est un film à voir, que ce soit en famille ou juste pour passer un moment de pur réconfort.
On fait un retour en arrière maintenant. Les Jeux Olympiques de Munich en 1972 ont été le théâtre d'une tragédie qui a marqué l'histoire. Le nouveau film de Tim Fellbaum, 5 septembre, revient sur cet événement sombre. Le film choisit de nous plonger dans les coulisses de la chaîne américaine ABC qui a couvert la prise d'otages en direct. Alors Thomas, que vaut ce thriller journalistique ?
C'est simple, 5 septembre nous transporte au cœur de la rédaction d'ABC lors de cette journée fatidique. Le film met en lumière les défis auxquels les journalistes ont été confrontés. Comment couvrir un événement aussi tragique en temps réel avec les moyens technologiques de l'époque ? Tout en jonglant avec les impératifs éthiques et la pression de l'audience. On suit notamment Rune Alredge, le président d'ABC Sport, interprété par Peter Sarsgaard, qui doit naviguer entre l'envie de fournir des informations précises et le risque de sombrer dans le sensationnalisme.
Et du coup, côté casting, est-ce que les performances sont-elles remarquables ?
Absolument, Peter Sarsgaard incarne avec brio Rune Alredge, dépeignant un homme tiraillé entre son devoir d'informer et les dilemmes moraux que cela implique. John Magaro et Ben Chaplin apportent également une profondeur à leurs personnages, représentant les différents visages du journalisme de l'époque. Léonie Benesch, quant à elle, brille dans le rôle de Marianne, une journaliste allemande symbolisant une génération en quête de progrès éthique.
Mais alors c'est un épisode marquant, qu'est-ce qu'on ressent concrètement en regardant 5 septembre ?
Pour ma part, j'ai trouvé le film captivant et intense. La tension est palpable du début à la fin, surtout en sachant que ces événements se sont réellement produits. On ressent l'urgence et la pression qui pèsent sur les journalistes, confinés dans un studio sombre et exigu, tentant de comprendre et de relater une situation chaotique. Le film soulève des questions éthiques sur la couverture médiatique des crises, nous poussant à réfléchir sur le rôle des médias dans de telles situations. Certaines scènes m'ont particulièrement marqué, notamment celles où les journalistes doivent décider en temps réel ce qui est approprié de diffuser ou non. C'est une plongée fascinante dans les coulisses du journalisme télévisé des années 70 qui résonne encore aujourd'hui. En somme, 5 septembre est un thriller solide qui offre une réflexion profonde sur le rôle des médias face à la tragédie. Il nous rappelle l'importance du journalisme tout en mettant en lumière les défis et les dilemmes auxquels les professionnels sont confrontés. Un film à voir pour quiconque s'intéresse à l'histoire, au journalisme ou simplement au récit humain intense.
Merci beaucoup Thomas pour cette rubrique. Thomas Bovino, cette semaine vous vous êtes intéressé à Aya Nakamura pour la musique. Et pourquoi donc ?
Je vais être honnête, je n'ai jamais vraiment écouté la musique de Aya Nakamura. Comme beaucoup, j'ai entendu des chansons comme Jaja ou Pookie, sans vraiment m'y intéresser. Par contre, j'avais entendu qu'elle était l'artiste francophone la plus écoutée du monde. Donc ça m'a intéressé d'en savoir un peu plus. Du coup, j'ai acheté le nouveau livre qui vient de sortir, Aya Nakamura, Dictionnaire critique, par Ismaël Merighetti, journaliste musical anciennement à France TV et au Parisien. Donc je mets mon costume de Pauline. Et en effet, Alexis, c'était une lecture, ma foi, particulière.
Et pourquoi particulière, Thomas ? Le livre ne vous a pas plu ?
En fait, je trouve l'auteur presque néfaste à son sujet. Raconté à Aya Nakamura à travers des mots-clés rangés dans l'ordre alphabétique, l'idée est très bonne. On y apprend pas mal de choses et les anecdotes sont vraiment agréables à lire. Mais c'est écrit comme un livre pour les fans, et je pense que l'auteur est lui-même un fan. Ce qui n'est pas un problème. Mais dans sa préface, Ismaël Merighetti dit pourtant qu'il a écrit son livre pour tous, même les réticents. Mais au fur et à mesure de ma lecture, j'ai eu l'impression que, selon lui, les personnes qui n'appréciaient pas Aya sont sûrement racistes ou misogynes. Moi qui n'écoute pas vraiment sa musique, ça m'a un peu rebuté.
Donc concrètement, pour une personne qui n'est pas forcément un fan de la première heure, vous ne conseillez pas forcément le livre ?
Si, je pense quand même. On comprend et apprend pas mal de choses. Dans mon entourage, la principale critique venait des paroles qui ne semblaient pas françaises. Dans le livre, par exemple, j'ai appris qu'en tant qu'immigrée malienne vivant dans le 93, Aya s'est fait des potes d'origine similaire. Et son langage s'est imprégné autant d'anglicisme que de mots africains. Et que comme elle veut toujours chanter pour ses copines, son langage correspond. Les anecdotes sur la maternité m'ont aussi beaucoup touché. Disons que je recommande le livre à tous ceux qui veulent s'intéresser à l'artiste.
Merci beaucoup Thomas. Ce dimanche, c'est le Super Bowl, événement qui est devenu autant une finale de football américain qu'un spectacle musical, avec cette année en tête d'affiche pour la mi-temps du Super Bowl, Kendrick Lamar. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
C'est devenu une tradition, on retrouve une légende de la musique anglophone à la mi-temps du Super Bowl. Après Beyoncé, U2 ou Taylor Swift, c'est au tour de Kendrick Lamar de prendre le premier rôle. Et c'est pas la première fois qu'il est sur scène. En 2022, il avait déjà été invité sur scène par Dr. Dre, accompagné de Snoop Dogg et Eminem. Le rappeur de LA, qui est quand même prix Pulitzer de la musique, et d'ailleurs le seul rappeur à l'être, et vainqueur de 22 Grammy Awards, a lui-même dirigé les préparatifs du show qui aura lieu à la Nouvelle-Orléans.
Est-ce que, comme il l'a été avant, Kendrick a prévu des invités ?
Pour l'instant, on n'en connaît qu'une seule, la chanteuse de R&B américaine SZA, sa série SZA, dont l'album Control avait été nommé meilleur album de 2017 par le Times. Et elle est elle-même très proche de Kendrick Lamar. Pour autant, des rumeurs circulent sur des potentiels invités, comme le groupe britannique nouvellement reformé Oasis, ou Kero Kero Bonito, un nouveau groupe britannique mais aux origines et influences du Japon. Une photo de la setlist aurait fuité, montrant les deux groupes sur la chanson Rock'n'Roll Star d'Oasis.
Alors moi j'ai une question qui me vient à l'esprit. Ces dernières années, on a vu qu'à la mi-temps du Super Bowl, il y avait de plus en plus de rappeurs. Est-ce que vous pensez que la pop va reprendre le dessus, notamment avec les dernières performances, ou qu'on va rester un peu dans cet univers de rap pour les mi-temps du Super Bowl ?
C'est une question d'actualité musicale en fait. Kendrick Lamar vient de sortir un nouvel album en novembre et ça correspondait à peu près avec l'arrivée du Super Bowl. Je pense que quand une nouvelle star sortira un album, une star de pop en tout cas, ça correspondra, ils s'arrangeront avec le Super Bowl pour que ça aille. On a eu Taylor Swift il n'y a pas si longtemps et Beyoncé encore avant.
Et j'ai une autre question qui me vient à l'esprit. On a vu l'année dernière, il y a eu un énorme clash entre Kendrick Lamar et Drake, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous pensez que ça aussi, ça a un lien avec le fait qu'il soit invité, ou est-ce que vous comprenez qu'il peut y avoir des détracteurs de cette mi-temps du Super Bowl ?
Bah forcément, il y aura des détracteurs parmi les fans de Drake. Mais j'ai cru comprendre en me renseignant que ça avait plutôt bien fini et que même si les deux ne sont pas forcément en bons termes, les fans le sont plutôt. Et je pense que ça va plaire au grand nombre.
Merci beaucoup Thomas. Et on termine votre chronique musique par la sortie du jour.
Est-ce que vous écoutez un peu de métal Alexis ?
Oui, honnêtement oui, je vais souvent au Hellfest et j'écoute un peu de métal.
Et bah pour ceux qui n'écoutent pas, c'est l'occasion de découvrir. Dream Theater sort son nouvel album. Si vous ne connaissez pas Dream Theater, c'est un des pionniers des groupes de métal. Créé en 1985, le groupe américain se fait une place dès 1992 sur la scène métal. Avec des morceaux mélangeant riff lourd et guitare virevoltant, le tout avec une batterie intense et des chants clairs. On retrouve vraiment un mélange de sonorités métal avec du rock progressif plus accessible, et même dans certains morceaux du piano ou du cuivre. C'est vraiment un bon groupe pour une introduction au métal.
Et ce nouvel album, qu'est-ce que ça donne ?
On a vraiment l'impression que le groupe a voulu se faire plaisir. Les morceaux font facilement 8 voire 10 minutes, les intros sont travaillées, les parties instrumentales sont vraiment mises en avant, et le solo de guitare prennent d'assaut chaque morceau. Pour autant, l'ambiance se veut un peu plus lourde que les albums précédents. Si l'album s'appelle Parasomnia, c'est pas pour rien. On retrouve au milieu des riffs lourds de métal des sonorités de synthé un peu paranormales. Même les sujets abordés restent durs. A Broken Man parle d'un homme traumatisé par la guerre à laquelle il a survécu. Le résultat donne un album un peu moins baladeur, mais plus intense, et ça ne me déplaît pas.
Merci beaucoup Thomas, on va laisser un petit peu la brutalité du métal de côté pour retrouver un peu le calme d'un bon livre. Pauline, c'est l'heure de notre rendez-vous littéraire. Cette semaine, les librairies regorgent de nouveautés, mais 3 sorties en particulier sont attendues.
Oui Alexis, on a du lourd cette semaine avec de l'émotion, du récit poignant et une touche de romance.
On commence avec L'orpheline d'Auschwitz d'Anna Stuart, 3e tome d'une série qui a déjà conquis un large public.
Exactement, après La sage-femme d'Auschwitz dont l'édition poche a cartonné en 2024 et La sage-femme de Berlin qui vient tout juste de sortir en poche, Anna Stuart frappe fort avec ce 3e volet. Et quel récit ! On y suit une jeune orpheline, survivante du camp, qui tente de reconstruire sa vie après l'horreur. Comme toujours avec Anna Stuart, c'est inspiré de faits réels et c'est bouleversant. On ressent chaque émotion, chaque cicatrice laissée par la guerre. Elle a cette capacité à nous plonger dans l'histoire avec une humanité déroutante.
On est donc sur une lecture forte en émotion, mais est-ce que c'est accessible pour autant ?
Tout à fait Alexis, c'est fluide, bien documenté et ça se lit d'une traite. On retrouve cette narration poignante qui a fait le succès des précédents tomes. Pour tout vous dire, je l'ai lu hier soir, d'une traite, en seulement quelques heures. C'est un livre qui m'a bouleversée, comme tous les livres parlant de cette période sombre de l'histoire. Un succès assuré en librairie, j'en suis convaincue.
On change d'ambiance avec « Tout le monde aime Clara » de David Fuenkinos, retour très attendu de l'auteur chez Gallimard.
Oui, Fuenkinos, on ne le présente plus, c'est un auteur qui a un vrai talent pour capturer des instants de vie avec une plume unique. « Tout le monde aime Clara » raconte l'histoire d'une jeune femme dont tout le monde tombe amoureux. Elle fascine, elle intrigue et surtout, elle bouleverse les vies de ceux qu'elle croise. C'est à la fois une réflexion sur la fascination qu'une personne peut exercer sur les autres, mais aussi une critique du monde moderne, des apparences et des faux-semblants.
Fuenkinos a souvent un style particulier, parfois clivant. Vous en pensez quoi de ce livre, du coup ?
Sa plume est reconnaissante entre mille, ça c'est sûr. Il a ce ton faussement léger où l'humour côtoie une mélancolie profonde. Ses livres se lisent vite, mais laissent une vraie empreinte. Et justement, les avis sont mitigés sur ce nouvel opus. Certains adorent, d'autres trouvent que ça manque un peu de relief. Personnellement, j'ai hâte de le lire et de me faire mon propre avis.
Et on termine avec la sortie romance de la semaine, Les Ranchs de Ruby Creek, premier tome de la série Gagné à tout prix d'Elsie Silver.
Et oui Alexis, il faut dire que Elsie Silver, c'est une valeur sûre dans le monde de la romance contemporaine. Son univers des cow-boys, des histoires passionnées et des héros ultra attachants. On la connaît surtout pour sa série Chestnut Spring qui cartonne à l'international. Et son dernier roman risque de connaître le même succès.
Et cette sortie en français, elle est attendue du coup ?
Très très attendue Alexis, entre les fans qui ont décompté les jours jusqu'à la date de sortie et ceux qui partagent déjà leurs attentes. C'est une sortie qui affole littéralement les réseaux sociaux. J'ai eu la chance de le lire en anglais et je peux vous dire que c'est un vrai bijou. C'est une romance immersive avec des émotions fortes et une écriture splendide. Et parlons de l'édition française, elle fait rêver. La maison d'édition Roncière a fait un travail incroyable sur l'esthétique du livre, avec un jaspage à couper le souffle. Autant vous dire que je vais l'acheter, juste pour embellir ma bibliothèque. Car oui Alexis, les livres sont pour moi de vrais objets de collection.
On s'en doutait un petit peu, mais du coup moi j'ai une question. Est-ce que vous avez une petite appréhension sur la traduction ?
Oui, et je pense que mon appréhension est partagée par beaucoup. Il faut dire que les premiers tomes de la série à succès Chestnut Springs, publiés chez BMR, avaient déçu niveau traduction. Et ça fait mal au cœur de mettre 20 euros dans un livre quand on sait que le travail n'est pas au rendez-vous. Les problèmes de traduction sont de plus en plus courants. Malheureusement, les maisons d'édition veulent aller tellement vite que parfois, c'est décevant. Espérons que cette fois, les éditions Roncière aient respecté le travail d'Elsie Silver, la force de son histoire, et que la magie opérera.
Merci Pauline pour ces belles recommandations. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure et même endroit.
Avec plaisir Alexis, bonne lecture à tous et à la semaine prochaine.